سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.800 kHz.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أُجِيبُ دَعْوَةَ داعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم.
Et quand mes esclaves t'interrogeront sur moi, alors que je suis tout proche, je réponds à l'appel de qui fait appel quand il m'appelle. Qu'il cherche donc à répondre à mon appel et qu'il croit en moi, peut-être serait-il le bien dirigé.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames, Messieurs, chers amis auditeurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois sur ces ondes de l'amitié et de la fraternité en ce lundi 8 avril 2024. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Israël doit être puni pour toutes ses mauvaises actions à l'échelle internationale qui ont mis le feu à toute la région, a déclaré l'ambassadeur d'Iran auprès des Nations Unies. La résistance irakienne frappe 5 cibles israéliennes. Et heurts entre manifestants et policiers lors d'une marche anti-OTAN et pro-Palestine à Naples, en Italie. C'était les principaux titres. En voici le journal. Israël doit être puni pour toutes ses mauvaises actions à l'échelle internationale qui ont mis le feu à toute la région, a déclaré le lundi 8 avril Amir Saidi Ravani, l'ambassadeur d'Iran auprès des Nations Unies, lors d'une réunion à l'Assemblée générale des Nations Unies sur la Palestine. Le représentant iranien a pointé du doigt la guerre génocidaire en cours contre la bande au Gaza, qui a tué plus de 33 200 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants. Depuis le 7 octobre 2023. Cette agression est sans précédent dans l'histoire contemporaine du point de vue de l'ampleur et du rythme des mortes d'enfants, des cadres humanitaires et médicaux de l'ONU, des journalistes, etc. La guerre menée par le régime d'Israël dans la bande de Gaza, où tous les hôpitaux et les locaux de l'ONU ont été détruits, enfreint toutes les lois internationales. Nous savons tous que les horreurs doivent cesser et que le seul moyen d'y parvenir est un cessez-le-feu efficace, indiqué Amir Saïd Iravani. Il a par ailleurs fait allusion au refus du régime de Tel Aviv de respecter une résolution de l'Assemblée générale l'appelant à cesser ses frappes en décembre dernier et à son indifférence envers une résolution similaire du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée le mois dernier. À la tête d'une délégation politico-parlementaire, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, s'est rendu le lundi 8 avril à Damas, capitale syrienne, deuxième étape de sa tournée régionale. Lors de sa visite, il a rencontré son homologue syrien, Faisal Miqdad. Hossein Amir Abdollahian a remercié son homologue syrien pour avoir fait le déplacement au bureau de l'ambassadeur iranien à Damas immédiatement après l'attaque terroriste d'Israël contre la section consulaire de l'ambassade d'Iran à Damas. Cette frappe a prouvé qu'Israël ne se conforme à aucune règle internationale ni aux droits humanitaires, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne, ajoutant qu'Israël sera puni et recevra la réponse nécessaire à son acte criminel contre le site diplomatique iranien. Nous considérons la sécurité de la Syrie comme notre propre sécurité, a précisé le ministre iranien des Affaires étrangères. À son tour, le ministre syrien des Affaires étrangères a déclaré que l'Iran et la Syrie ne reconnaissaient pas Israël, estimé que le régime criminel ne s'engageait à aucun principe international ni à la Charte des Nations Unies. L'agression israélienne contre les locaux diplomatiques iraniens et les infrastructures syriennes n'est pas séparée des crimes du régime contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, a indiqué Faisal Miqdad. La résistance islamique irakienne a attaqué le mardi à l'aube, 9 avril, 5 cibles israéliennes en soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza. Les combattants du groupe antiterroriste de la résistance islamique en Irak ont attaqué 5 cibles israéliennes en soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza, qui font l'objet d'une guerre génocidaire menée par le régime d'occupation sioniste. Lit-on dans deux communiqués parus mardi matin 9 avril par cette résistance. Les frappes s'inscrivent dans le cadre de la politique de résistance contre le régime sioniste, de soutien au peuple palestinien de la bande de Gaza et des mesures de représailles contre les massacres perpétrés par l'armée israélienne. Le groupe irakien a annoncé avoir utilisé des armes appropriées contre des cibles, parmi lesquelles le port pétrolier d'Ascalon au centre des territoires occupés et la base aérienne de Hatzarim dans la ville de Beersheba au centre-sud. La résistance islamique irakienne assure poursuivre ses opérations aussi longtemps que le régime continuerait la guerre. Le Hezbollah libanais a annoncé lundi soir avoir mené une attaque d'artillerie contre un groupe hostile qui avait tendu une embuscade à l'est du site de Anita. L'attaque a fait de nombreuses victimes. Il a également mené une attaque de drone contre le site naval de Ras el Naroura, confirmant qu'il avait atteint sa cible avec précision. Les combattants du Hezbollah ont visé un rassemblement de soldats israéliens à proximité du site de Hadbayeroun avec des roquettes Burkan. Le site de Waistat al-Alam dans les collines occupées de Kfar Chouba ainsi que la caserne de Zibtin dans les fermes de Sheba occupées ont fait aussi l'objet de frappes. Dans le nord de la Palestine occupée, des sirènes d'alarme ont retenti dans les colonies de Dishon, Ifta, Malkia et Ramat Naftali, après l'infiltration d'un drone, selon les médias israéliens. Les sirènes ont également résonné dans les colonies de Anita, Yara et Admit. Parallèlement, les frappes aériennes israéliennes se poursuivent contre les villages et villes du sud du Liban. L'artillerie israélienne a de nouveau bombardé la périphérie de la ville de Riyam et la plaine de Riyam, adjacente à la colonie de Metoula, ainsi que les collines de Talit al-Hammam, à proximité de la ville. La ville d'Adaïssa n'a pas été épargnée non plus, a rapporté le correspondant d'Al-Mayadine. Des affrontements ont éclaté entre des manifestants anti-OTAN et pro-palestiniens et des policiers anti-émeutes à Naples, en Italie. 8 personnes ont été blessées lors d'affrontements entre la police et des manifestants participant à une marche anti-OTAN dans la ville italienne de Naples. Des manifestants ont tenté de briser le cordon de police jusque Théâtre Saint-Carlo, où était prévu un concert commémorant le 75e anniversaire de l'Alliance Outre-Atlantique. Il y a eu également une procession pro-palestinienne le long de la Via Toledo de Naples, avec des participants brandissant des banderoles sur lesquelles étaient inscrits des slogans anti-OTAN et pro-Palestine. 52 personnes ont tenté de briser le cordon de policiers en tenue anti-émeute. Au final, les forces de l'ordre ont réagi à coups de matraque. Pendant ce temps, des manifestants ont investi les locaux de l'université Federico II, exigeant que l'OTAN cesse de coopérer avec Israël. Nous considérons qu'il est inacceptable qu'une telle méthode de violence soit utilisée contre ceux qui condamnent haut et fort la guerre barbare et la participation de l'OTAN et de nos gouvernements au génocide commis par Israël à Gaza, ont déclaré les organisateurs de la manifestation. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Yémen. Les États-Unis capitulent, réfléchissent à une solution diplomatique à la crise de la mer Rouge. Le blocus généralisé de la mer Rouge imposé par le Yémen a redéfini la dynamique géopolitique. L'acte de résistance motivé par le génocide d'Israël contre la population de Gaza a ébranlé le marché du régime de Tel Aviv tout en portant un coup sérieux au mensonge de l'invincibilité américaine et israélienne. Il n'y a pas si longtemps, Washington, avec sa flotte de cuirassés et d'avions de pointe, garantissait à ses partenaires israéliens une navigation libre et un accès sans entrave au marché mondial via le détroit de Bab el-Mandeb. Aujourd'hui, ce sentiment de sécurité a disparu pour toujours. En novembre dernier, le Yémen, dirigé par le mouvement Ansarallah, a commencé à cibler des navires liés aux États-Unis et à Israël avec un arsenal de missiles et de drones avancés de fabrication locale. Le Yémen a affirmé que ces opérations cesseraient dès que l'agression contre Gaza cesserait et que l'aide serait autorisée, accomplissant ainsi son devoir international de prévenir le crime de génocide en vertu du droit de l'ONU. Les États-Unis ont réagi en créant une alliance maritime composée de puissances en déclin et d'armées inexpérimentées pour arrêter l'armée yéménite. Surnommant cette opération peu impressionnante, Prosperity Guardian. Prosperity Guardian s'est effondré avant le départ du premier navire. L'Espagne, l'Italie, la France et l'Australie ont rejeté les demandes spécifiques de personnel et de navires de guerre. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont été laissés seuls pour prendre les devants et mener une agression contre le Yémen en représailles au blocus imposé à leur principal allié, le régime de Tel Aviv, qui manque de légitimité. L'agression lancée conjointement par les États-Unis et le Royaume-Uni, associée à une aide perfide des régimes arabes de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et de Bahreïn, a commencé tôt le 12 janvier. Aujourd'hui, moins de 4 mois après avoir défendu le commerce international, les États-Unis font marche arrière. Cela a été évident la semaine dernière lorsque l'envoyé américain au Yémen, Tim Lenderking, a fait cette remarque très révélatrice à Reuters. Nous sommes favorables à une solution diplomatique. Nous savons qu'il n'y a pas de solution militaire. En effet, la solution militaire américaine a échoué, malgré les bombardements d'infrastructures civiles et la mort de plusieurs militaires yéménites. Le Yémen a réussi à maintenir efficacement son blocus tout au long de l'agression menée par les États-Unis.
Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du débat. Alors, la vente d'armes à Israël reste au cœur de l'actualité en tant qu'une question controversée. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a exigé vendredi l'arrêt de toute vente d'armes à Israël, alors que certains pays ont cessé cette vente, ces exportations controversées. Certains pays continuent malgré les pressions intérieures et extérieures. On va s'intéresser à ce sujet avec nos deux experts qui nous rejoignent tout de suite après un petit reportage. Reste avec nous. Merci.
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté une résolution appelant à ce qu'Israël soit tenu responsable des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis dans la bande de Gaza. 28 pays ont voté en faveur de la mesure. La résolution exige également l'arrêt de toutes les ventes d'armes à Israël, soulignant les avertissements de génocide dans sa guerre à Gaza. Il fait référence à un arrêt rendu par la Cour internationale de justice en janvier, selon lequel il existe un risque plausible de génocide à Gaza. Cette résolution marque la première fois que l'organe suprême de l'ONU prend une position claire sur la guerre génocidaire israélienne en cours contre Gaza. Amnesty International a recueilli de nouveaux éléments de preuve d'attaques illégales meurtrières dans la bande de Gaza occupée qui démontrent que les forces israéliennes continuent de bafouer le droit international humanitaire, anéantissant des familles entières en toute impunité, mieux dire une vraie campagne génocidaire. Le projet de résolution de vendredi, soumis par le Pakistan au nom de tous les États membres de l'Organisation de coopération islamique OCI, à l'exception de l'Albanie, appelle à un cessez-le-feu immédiat ainsi qu'à un accès et une assistance humanitaire immédiate. L'Argentine, la Bulgarie, l'Allemagne, le Malawi, le Paraguay et les États-Unis ont voté contre cette résolution. République dominicaine, la France, l'Inde, la Géorgie, le Japon, la Lituanie, le Monténégro, les Pays-Bas et le Roumanie se sont abstenus. Faisant référence à la présentation du projet de cette résolution au Conseil des droits de l'homme, l'AFP avait précédemment rapporté que si cette résolution était approuvée, ce serait la première fois que cette haute instance des droits de l'homme, affiliée aux Nations Unies, prendrait position contre la guerre à Gaza. Selon certaines informations, dans ce projet de résolution de 8 pages, il était demandé au régime sioniste de mettre fin à l'occupation des terres occupées et de lever rapidement le siège illégal de la bande de Gaza.
Voilà, retour au plateau. J'ai le grand plaisir de recevoir pour ce débat Madame Aïssar Midani, intellectuelle, analyste politique franco-syrienne. Bonjour Madame.
Bonjour à vous, à votre équipe et à tous les téléspectateurs et à vos invités.
Bienvenue, heureuse de vous retrouver, Aïssar. Également, merci. Immense plaisir d'avoir parmi
merci,
nous.
Sarah.
Merci d'avoir parmi nous Monsieur Bernard Cournou, analyste politique, spécialiste du Moyen-Orient, connaisseur du terrain. Bonjour Monsieur Cournou, merci d'être là.
Bonjour à vous et à toutes et à Madame Aïssar Midani.
Alors, voilà, une résolution inédite. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a exigé vendredi l'arrêt de toutes les ventes d'armes à Israël. Monsieur Bernard Cournou, on commence par vous. Comment réagissez-vous à cette résolution inédite, s'il vous plaît?
C'est une résolution nouvelle, une nouvelle résolution pour demander le cessez-le-feu de la part d'une instance internationale importante, après celle de l'UNRWA, après celle de l'Organisation mondiale de la santé, après même une résolution du Conseil de sécurité, mais non contraignante, comme toutes ces résolutions, puisque je l'ai souvent dit, seules les résolutions du chapitre 7 de la charte peuvent être appliquées par la force, une fois que le droit a été voté. Donc on en reste à une position de principe qui est utile pour sensibiliser les opinions, pour pousser à Israël à se rendre compte qu'il a très peu de soutien dans le monde maintenant. Je regrette aussi que la France se soit abstenue alors qu'elle aurait dû voter. Donc c'est peut-être des détails de cette résolution qui ne lui plaisent pas, mais elle aurait mieux fait de voter puisqu'elle a déjà dit qu'elle demandait un cessez-le-feu immédiat et qu'elle prépare une résolution pour le Conseil de sécurité pour traiter aussi les aspects politiques qui sont essentiels, car sans discuter du fond des affaires, c'est-à-dire la création de l'État palestinien avec son territoire, avec une évacuation le plus rapidement possible des colons, et un accord aussi territorial pour que cet État de Palestine soit viable avec une continuité territoriale entre Gaza et la Cisjordanie, comme c'était prévu d'ailleurs dès 1947 lors de la réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies. Tout cela est nécessaire parce qu'il n'y aura de paix juste que lorsqu'il y aura une paix complète basée sur le droit international tel qu'il est aujourd'hui.
Merci beaucoup, Monsieur Cournou. Cher Aïssar, alors que l'aide humanitaire est difficile à être envoyée, voire impossible, vers Gaza, la livraison d'armes vers Israël est fluide, rapide, facile. Comment réagissez-vous? Quel premier regard portez-vous sur cette résolution inédite du Conseil des droits de l'homme de l'ONU?
En fait, je rebondis sur votre commentaire, le fait que de toute façon, effectivement, la vente d'armes est très fluide, et pas seulement la vente, la fourniture des armes est très fluide, et puis les ponts aériens se multiplient, que ce soit du côté des États-Unis ou du côté des autres pays de l'OTAN pour Israël, mais aussi de certains pays arabes, pas au niveau des armes, mais au niveau des vivres, et qu'il s'avère complètement difficile, voire impossible, d'acheminer les vivres et les aides au peuple palestinien, alors qu'il y a des milliers de poids lourds qui attendent au passage de Rafah, et il suffirait effectivement d'un minimum de bonne volonté ou d'un minimum d'humanisme pour que les passages soient ouverts et que la population soit sauvée de la famine et puis de la mort lente par manque de médicaments. Donc il était temps effectivement que les conseils des instances internationales prennent compte de la situation, et je dirais là, même avec difficulté, ce n'est pas tout simplement parce qu'il y a pas mal de pays qui condamnent cette attitude génocidaire d'Israël, et qui aussi ajoutait au rapport de la Cour de justice internationale, ajoutait aux décisions et puis de tous les pays aussi qui sommes, parce qu'aujourd'hui par exemple le Nicaragua qui a accusé l'Allemagne aussi, qui a traduit l'Allemagne devant la Cour internationale de justice pour ses ventes d'armes à Israël, justement comme étant complice dans le génocide. Il y a des mouvements très importants dans les pays européens, y compris aux États-Unis, qui font pression sur leur gouvernement. Mais comme l'a dit M. Cornu aussi, malheureusement, la France n'a fait que s'abstenir. Bon, mais on aurait préféré qu'elle soit beaucoup plus positive. Et pour la... effectivement, en fait, tout simplement, c'est un embargo sur les armes, en fait. Hein, c'est pas sur autre chose. Et là, ça aurait été quand même un minimum important qui permettrait à la France d'avoir un minimum de cohérence avec les principes, je dirais, et puis qui sont affichés tous les jours sur les défenses des libertés, sur le respect des autres pays, de la souveraineté. Donc en fait, c'est sûr que c'est très important, en fait, cette décision. On voudrait qu'elle soit appliquée et que toutes ces instances aient les moyens de les faire appliquer. Mais on constate réellement qu'en présence de pays hégémoniques comme les États-Unis, qui soutiennent de toute façon, sans aucune réserve, cet état criminel d'Israël, et qui le pousse même dans sa criminalité jusqu'au bout, en le fournissant pas seulement en armes et en vivres, mais aussi en le soutenant dans toutes les instances internationales de manière indéfectible, en soutenant cette attitude agressive et belliqueuse, et puis même génocidaire, hein. Sans limite. Donc, en fait, je crois qu'il faut voir ceux qui sont derrière Israël, y compris les pays de l'OTAN, et c'est ça qui fait qu'un pays comme la France, qui peut-être n'a pas tellement les moyens d'aller au-delà de ce qu'ils ont fait, au-delà de l'abstention, je dirais. Mais, en fait, comme disaient aussi beaucoup de militants, je dirais, il faut libérer le monde du sionisme, et ce n'est pas seulement la Palestine qui est occupée par les sionistes, mais c'est le monde entier. Les dirigeants du monde, malheureusement, sont occupés par le sionisme.
Monsieur Cornu, alors toujours s'agissant des infos liées à notre débat de ce lundi, il y a des pays, à part les États-Unis, on met les États-Unis à côté, il y a des pays en Europe qui continuent toujours leur soutien militaire et la fourniture d'armes vers Israël, telle l'Allemagne. Le Canada, l'Espagne et l'Italie ont annoncé officiellement qu'ils ont cessé cette fourniture d'armes, cette vente d'armes, mais l'Allemagne, également la Turquie, puisque vous êtes connaisseur de ce pays, la Turquie. Alors, parlez-nous, s'il vous plaît, de ce double visage auprès du gouvernement turc. Monsieur Erdogan a sévèrement critiqué Israël, comparant même le premier ministre extrémiste Benjamin Netanyahu à Adolf Hitler. Et cependant, il continue d'exporter toute une gamme de produits vers Israël. Produits militaires, je vous disais.
Oui, les livraisons d'armes sont clairement en provenance surtout des États-Unis et de l'Allemagne. Et l'Allemagne, qui est très tenue par ses positions anciennes et qui se sent malheureusement obligé de soutenir l'État israélien quoi qu'il arrive, sinon ils sont aussitôt accusés d'être la continuité du nazisme. Donc c'est ce chantage, disons, symbolique qui bloque. Mais et certains partis commencent à un peu changer d'opinion. Je pense que le parti écologiste en Allemagne, Die Grünen, commence un peu dans son sein à avoir un peu des débats et demander une suite beaucoup plus ferme envers l'État israélien et qui poussera son gouvernement de coalition avec les socialistes allemands à avoir des positions beaucoup plus critiques. Voilà, c'est ce qu'on peut souhaiter. Et les manifestations populaires le demandent d'ailleurs de toute façon très clairement.
Merci. Madame Midani, alors, cette résolution adoptée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU intervient quelques jours après le drame du meurtre d'assassinat des humanitaires par Israël dans la bande de Gaza. Est-ce que vous voyez un lien entre ce geste, l'adoption de cette résolution et ce drame ?
Je crois que oui. De toute façon, il y a un lien parce que là, on a vu que des voix dans le monde entier se sont élevées immédiatement, notamment en Angleterre d'ailleurs, se sont élevées immédiatement contre, de manière, comment dire, très très en colère et de manière très vive face à ce meurtre des humanitaires, des aides humanitaires. Alors que les 130 000 Palestiniens, leur vie, etc., n'ont pas vraiment provoqué autant de colère. Mais n'empêche que c'est une très bonne chose quand même qu'il y ait eu cette colère et qu'il y ait quand même, en fait, un sursaut, je dirais, pour condamner les attitudes, l'attitude israélienne qui vise même les travailleurs humanitaires parce que en fait elle est décidée dans sa criminalité à anéantir le peuple palestinien, ça d'une part, à l'affamer et puis surtout à dissuader toutes les organisations humanitaires de venir travailler aussi en Palestine. Donc, comme ça, ils sont sûrs d'opérer en silence hein, le génocide qu'ils veulent réaliser. De la même manière, on voit qu'ils visaient aussi les journalistes et tous ceux qui pouvaient en parler. Et c'est de la même manière, ils ont voulu interdire complètement l'UNRWA, qui est la petite veine de vie, je dirais, le petit ruisseau de vie qui alimentait les Palestiniens aussi. Donc, cette agression a clairement un sens qui est de vouloir persister dans le génocide, hein, vouloir persister aussi dans l'extermination et, en fait, empêcher toute filière d'aide qui puisse arriver. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ferment le passage de Rafah aussi. En fait, ils ferment le passage, ils empêchent tous les camions qui sont là à porter les vivres et les médicaments d'entrer à Gaza. C'est comme ça aussi qu'ils ont détruit les hôpitaux, les lieux de stockage des aliments, tous les moyens de vie ont été détruits ou ils les détruisent systématiquement à Gaza pour continuer leur masse besogne de génocide hein, malgré les décisions du Tribunal international de justice, malgré les protestations dans le monde entier, faisant fi de tout cela et de la loi internationale, Israël continue et il était important en fait de marquer le coup au moins pour les pays qui soutiennent, pour tous les pays du monde, de prendre cette décision. Mais on a bien vu qu'il y a beaucoup de pays qui se sont abstenus. Il y a aussi des pays qui sont contre. Donc c'est quand même c'est très positif que cette décision du Conseil des droits de l'homme ait eu lieu. Mais quand on voit qu'elle est aussi peu soutenue par les... moi, j'aurais pensé qu'une motion de ce type aurait été approuvée à l'unanimité, moins un peut-être, puisque les États-Unis ne soutiennent pas. Mais là, quand même, c'était un petit nombre de pays qui a soutenu cette motion et que ça montre quand même que le pouvoir américain continue à s'exercer en pression sur pas mal de pays dans le monde, malgré le crime clair et qui crève les yeux, je dirais, de tout le monde, le crime de génocide des Palestiniens par les Israéliens.
Exactement, voilà. Exactement. Bernard Cournot, alors le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a également évoqué le cas des crimes de guerre. Ça, pour énième fois, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU exige qu'Israël soit tenu pour responsable des présumés crimes de guerre, pour reprendre ses mots. Bon, il a utilisé le mot présumé, mais tout le monde sait qu'il s'agit de vrais crimes de guerre. Nul doute qu'il s'agit de crimes de guerre dans la bande de Gaza et qui est toujours malheureusement en cours.
Je dois quitter l'entretien parce que je me rends à Lyon pour voir deux films sur l'histoire de la Palestine.
Je vous en prie, je vous remercie pour avoir participé à ce débat. À vous, cher Aïssar, vous voulez réagir à cette déclaration de crime de guerre. S'agissant de crime de guerre à Gaza, le Conseil des droits de l'homme a exigé qu'Israël soit tenu pour responsable, bien qu'il n'a pas utilisé exactement l'expression crime de guerre, il a utilisé présumé, le mot présumé.
Oui, mais c'est ça le problème, c'est que tout le monde prend des gants et quand il s'agit d'Israël, alors c'est présumé crime de guerre, c'est en passe de devenir un génocide, c'est je sais pas quoi, c'est peut-être, et on annexe tout ça en fonction à un avenir d'enquête, etc. Alors que franchement, les crimes, ils sont là, ils sont au vu et au-dessus de tout le monde. On voit les enfants qui sont trucidés et réduits en miettes. On voit les maisons, les bâtiments, les tours d'habitation qui sont réduites en cailloux au niveau du sol avec sur la tête de leurs habitants. Là, on parlait de 130 000 personnes qui morts, blessées et les gens sous les décombres. Mais je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui sont sous les décombres parce que Israël ne laisse même pas le temps par les bombardements sans répit aux gens, ni pour rechercher leurs victimes sous les décombres, ni pouvoir les enterrer, ni pouvoir les reconnaître. C'est quelque chose d'absolument immonde sur lequel le monde entier, alors que ça crève les yeux, il y a ces pays, ce groupe de pays qui ressemblent d'ailleurs à Israël aussi, ou qui sont aussi sous influence américaine, sous la pression des Américains, ils ne peuvent pas aller au-delà et ils ne prennent pas de décision plus radicale que cela. On met, même dans les décisions, on met des bémols. Et ça, c'est franchement inacceptable du point de vue des droits de l'homme, des droits humains, etc., qu'ils prétendent défendre, et les libertés qu'ils prétendent défendre. C'est absolument incroyable et le génocide continue On peut dire quand même que ça fait des mois que ces décisions sont prises, la décision de la Cour internationale de justice, les différentes instances, etc., des manifestations dans les rues, des soutiens. Et vraiment incroyable, on n'a jamais vu les peuples du monde soutenir autant une cause. Et bien, ça continue encore plus belle, de plus belle, et les crimes sont de plus en plus effroyables et de plus en plus généralisés. D'ailleurs, ce n'est plus seulement la bande de Gaza, mais c'est aussi toute la Cisjordanie. Je voudrais rappeler quand même que cette nuit, les Israéliens ont envahi Jenin, ils ont envahi Tulkarm, etc. Il y a aussi des confrontations. Heureusement qu'il y a une résistance populaire qui s'oppose à eux aussi, mais il y a toujours des morts, des blessés, des maisons qui sont détruites sur la tête de leurs habitants, des destructions. Et en fait, tout ça pour empêcher les Palestiniens de vivre et les pousser à l'exode, les pousser à l'exil. Le projet israélien d'exiler tous les Palestiniens continue, et ça continue depuis 48, de même avant 48, depuis les années 30, et ça continue au vu et au su du monde entier, et personne n'y peut rien. Pourquoi ? Parce qu'ils sont soutenus par les Américains, les Britanniques, les Français et les Allemands. Donc il faudra que ça cesse, quoi. Au niveau international, il faudra que les choses soit faite autrement pour qu'il y ait un minimum de droits affirmés et un minimum de principes respectés, parce qu'il faut quand même rappeler que ce sont les principes mêmes de la charte de l'ONU qui sont bafoués à toutes les minutes, et c'est ceci qui rend que c'est toutes ces instances complètement comme si elles étaient inexistantes, et d'ailleurs elles deviennent. On se bat à l'intérieur pour qu'elles reprennent leur rôle et leur existence, mais en fait, là, il n'en est rien. On en est quand même au 7e mois de ce génocide, hein, et rien n'est fait.
Cher Hassan Midani, analyste politique intellectuelle franco-syrienne, merci de votre intervention dans ce débat de ce lundi. Belle analyse et des éclairages efficaces. Amis téléspectateurs, amis auditeurs, merci à vous. Au revoir, à la prochaine.
Le tourisme gastronomique en ligne. Le tourisme gastronomique, également appelé tourisme culinaire, est un type de voyage touristique associé à la cuisine locale dans le but de découvrir l'histoire, le savoir-faire et la culture d'un pays à travers ses spécialités culinaires. Le tourisme gastronomique en Iran est une série de 36 émissions qui tentent de faire découvrir à nos fidèles auditeurs la riche cuisine iranienne. Bonjour, chers auditeurs. Dans le programme de cette semaine de la série radiodiffusée Tourisme gastronomique en Iran, nous avons l'intention de voyager avec vous à Mionné, qui est l'une des villes de la province de l'Azerbaïdjan oriental. Dans ce programme, en plus de vous présenter la belle ville, nous vous apprendrons deux types de plats locaux des habitants de Mionné, à savoir obgouche de bommier et oche obrouré. Restez avec nous jusqu'à la fin du programme. Mionné est une vaste ville qui possède en son sein de nombreux monuments historiques. Cette belle ville est l'héritage de la plus ancienne race iranienne appelée Mèdes. Les Mèdes ont régné sur les régions occidentales et centrales du plateau iranien d'environ 678 avant Jésus-Christ jusqu'à environ 549 avant Jésus-Christ. C'est pourquoi la province de l'Azerbaïdjan oriental est connue sous le nom de Potimed. Les archéologues ont découvert des objets anciens et des sculptures en terre cuite, notamment des inscriptions assyriennes et orartouf à Miané, estimant que l'histoire de la dite région date des périodes pré-médiennes. Lors des fouilles menées en 1973 dans la région centrale d'Armoudak, une statue en terre cuite appartenant à la période sassanide a été découverte, ce qui montre l'importance de cette région dans différentes périodes de l'histoire iranienne. Concernant la nature de la belle ville de l'Azerbaïdjan oriental, il faut dire que la zone abrite différentes espèces d'animaux. C'est pourquoi Miané est devenue une zone protégée. Dans la nature de cette région géographique, on peut trouver des animaux comme le cerf, l'ours brun, le chat sauvage, le blaireau européen, le wison, le sanglier, le loup, le renard et des oiseaux comme le faucon, l'aigle royal et la perdrix. Aussi, plus de 40 types de plantes comestibles y poussent, dont la rhubarbe, la menthe des montagnes, l'herbe de Sainte-Sophie, etc. En outre, le produit agricole le plus connu de Miané est le sorghum à blé, qui est utilisé pour préparer des blés traditionnels et du fourrage pour le bétail. Les agriculteurs de cette région cultivent principalement du blé, du riz, des tomates, des concombres, des pommes destinées à l'exportation et des pastèques. Miané compte des habitants très chaleureux et gentils qui parlent l'azéri. Miané, comme d'autres villes touristiques de la province de l'Azerbaïdjan oriental, regorge de monuments et paysages historiques et naturels. Parmi les lieux religieux de cette ville, on peut citer la mosquée de pierre de Miané, le mausolée Mohammed, le pont Shahrechai, la forteresse Najaf Oli Khan, le pont d'Ortar et le caravansérail Jamal Abad. De nombreux voyageurs visitent Miané et ses attractions touristiques et naturelles lors de leur voyage dans la province de l'Azerbaïdjan oriental et achètent des souvenirs de la ville. Parmi les souvenirs de la ville Miané, on peut citer le pain ishlifatir, les pommes, le riz, les produits laitiers naturels, le miel, les herbes médicinales, les tapis et moquettes, ainsi que les balais. De plus, les Turcs de Miané proposent également de nombreux plats spéciaux, dont obgouche de bamier, bouillon de viande au gombo, et hoche obgouré, potage au verjou. Dans ce qui suit, nous prévoyons d'apprendre à préparer le plat populaire de Miané, obgouche de bamier. Le gombo utilisé dans ce délicieux plat possède de nombreuses propriétés. Ce légume possède une substance visqueuse qui aide à éliminer les déchets et les toxines du système digestif. Le gombo renforce le cerveau. Il existe des recherches complètes qui ont établi un lien entre la consommation de gombo et la réduction du risque de maladie d'Alzheimer et d'autres maladies neurologiques. De plus, le gombo possède des dizaines d'autres propriétés qui en font cette plante efficace pour l'organisme humain. Pour préparer obgouche de pommier, vous avez besoin de 400 g de viande de mouton, 2 oignons moyennement hachés, 400 g de gombo, 3 tomates râpées, 2 cuillères à soupe de concentré de tomates, du sel, du poivre et du curcuma. Vous faites d'abord revenir la viande et l'oignon ensemble, puis laissez-les cuire en pot avec un peu de curcuma. Une fois la viande à moitié cuite, ajoutez les tomates râpées, le sel, le poivre, les épices et le concentré de tomate avec le gombo, attendez qu'elle soit complètement cuite. Comme vous le voyez, préparer ce plat est très simple. La seule chose à considérer lors de la cuisson du plat est qu'au bouche le baumier doit être cuit de manière à ce qu'il ne perde pas son œuf et qu'il soit juteux. Auparavant, nous avons parlé des propriétés du habgouche de baumier bouillon de viande au gombo et de la façon de préparer ce repas. Dans ce qui suit, nous prévoyons de vous présenter un autre plat local de la ville Mionnet, Hocher Brugey. Ce potage au verjou est l'un des délicieux plats locaux de l'Azerbaïdjan oriental. Le repas est également connu sous d'autres noms tels que le potage aux tomates ou le potage aigre. Le verjou est le jus acide extrait de raisins non mûrs pour aromatiser ou aigrir les aliments. Le verjou contient de la vitamine C et peut être efficace contre l'inflammation de la muqueuse buccale et les saignements des gencives. De plus, grâce à ses composés antiseptiques, il peut être utile pour nettoyer l'estomac et les intestins et pour se débarrasser des vers intestinaux. Étant donné que le verjou a un caractère froid, il n'est pas recommandé aux personnes colériques, aux personnes ayant des nerfs faibles, aux femmes enceintes, aux personnes souffrant d'ulcères d'estomac et d'inflammation intestinale, aux personnes souffrant d'hypertension artérielle et aux malades souffrant d'une maladie rénale. Pour préparer ce potage, on a besoin d'un demi-kilo de légumes, dont des poireaux et du persil en quantité égale, d'un demi-kilo de riz cuit, généralement composé de riz demi-rein, d'un gros oignon, de 5 tomates, de 2 à 3 cuillères à soupe de concentré de tomates, d'un demi-verre de haricots rouges, d'un verre de verjou, d'environ 1 à 2 cuillères à soupe de menthe, d'un comprimé de poulet prêt à manger et d'un pot d'huile, de sel et de poivre. Avant de cuisiner Hocher Brugey, faites d'abord tremper les haricots pendant au moins 6 heures et changez l'eau plusieurs fois pour éliminer le gonflement. Puis, faites-les bouillir dans une casserole, puis égouttez-les. Râpez également grossièrement les tomates et réservez. Mais comment préparer le potage au verjou? D'abord, hachez finement l'oignon et faites-le revenir dans une casserole avec un pot d'huile. Versez ensuite les légumes lavés et le riz dans la casserole avec un pichet d'eau et mettez-la sous le feu moyen jusqu'à ce qu'elle soit cuite. Il est préférable de laisser la marmite entr'ouverte et de remuer la soupe de temps en temps. Un peu plus tard, lorsque les ingrédients bout, ajoutez le comprimé d'extrait de poulet et remuez goûter pour ajouter une petite quantité de sel si nécessaire. Comme le concentré de tomate contient un peu de sel, vous devez être plus prudent lorsque vous ajoutez du sel. Les tomates moussent un peu au début, mais cela disparaît aussitôt. Lorsque le riz est cuit et les légumes deviennent cuits et commencent à durcir, dissolvez le concentré de tomate dans un pot d'eau, ajoutez-le au potage jusqu'à ce qu'il épaississe. Ajoutez ensuite un pot de poivre et ajoutez un pot d'eau. Ajoutez également les haricots bouillis et le bouillon et laissez bouillir un peu. À la fin, ajoutez la menthe dans le potage. Ainsi, votre repas est prêt.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.